France Inter.
Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans Grand Bien vous fasse. C'est dans la tête, arrête d'y penser et tu verras, ça va venir. Quelle femme concernée par l'infertilité n'a pas entendu au moins une fois cette fameuse phrase, comme si les enfants naissaient à coups de pensées magiques, et pourquoi pas dans un chou ou une rose tant qu'on y est. Un couple sur six en France est concerné par l'infertilité. Je dis bien couple parce que longtemps les conseils et les études médicales ont porté sur les femmes. Or l'homme aussi est touché et il le sera de plus en plus. L'infertilité augmente à tel point qu'en 2045, il est possible que la majorité des couples aient recours à la PMA pour avoir la joie d'être parent, selon une étude américaine récente. Si elle est restée longtemps taboue, la question, les questions que suscite l'infertilité commencent aujourd'hui à apparaître sur la place publique et on en parle sur France Inter avec vous aussi. Si vous êtes concerné, si vous voulez intervenir, grand bien vous fasse, c'est le mode d'emploi de la vie quotidienne.
France Inter, Thomas Chauvineau, grand bien vous fasse.
Avec trois invités aujourd'hui. Bonjour Isabelle Dautry.
Estelle.
Bonjour Estelle, pardon, excusez-moi. Vous êtes journaliste, vous venez de publier Génération Infertile, coécrit avec Victor Point et Pauline Pélissier. C'est aux éditions Autrement. Un livre assez grand public, mais aussi très complet sur l'approche scientifique. On aura l'occasion d'en reparler. Puis vous êtes vous-même passé par le long parcours de la PMA. Vous nous le raconterez au cours de l'émission. Bonjour, professeur Nelly Achour-Schneeweis.
Bonjour.
Vous êtes responsable de la biologie de la reproduction à l'hôpital Antoine Béclair à Clamart et puis responsable aussi du CECOS, donc le centre de conservation du sperme et des gamètes. Et bonjour René Friedman.
Bonjour.
Au téléphone, vous êtes gynécologue et puis bah, évidemment on vous connaît puisqu'il y a 40 ans vous avez participé à la naissance de ce qu'on appelait alors le premier bébé éprouvette. Hein, c'était en 1982. Vous venez de publier Une histoire de la naissance, c'est aux éditions Grasset en coédition avec France Culture. Et puis vous signez aussi un podcast sur France Culture que je vous invite à écouter, Histoire de la naissance. Ça fait donc 40 ans hein, ce premier bébé éprouvette, René Friedman. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 40 ans ?
Beaucoup de choses sur le plan du développement des propositions thérapeutiques, mais il s'est passé toujours la même chose, c'est-à-dire que un couple sur deux aboutit à son désir d'enfant et l'autre n'y aboutit pas. En un mot, on n'a pas tout maîtrisé et on ne comprend pas tout et le désir d'enfant a évolué dans la société parce qu'il s'est manifesté plus tard qu'auparavant. Et comme vous le savez, la fertilité baisse avec l'âge de la femme, surtout. Et donc, on est confronté à des demandes de plus en plus fortes de prise en charge pour des cas de plus en plus difficiles. Voilà. Maintenant, ceci dit, il faut tout ramener quand même à des proportions. C'est-à-dire qu'il y a effectivement peut-être un couple sur six qui consulte à un moment donné parce qu'il y a une difficulté. Mais c'est pas pour autant qu'elle va être définitive. Il y a beaucoup de couples qui consultent puis qui conçoivent naturellement, soit spontanément, soit après des conseils, soit après un passage dans les différentes méthodologies qu'on peut leur proposer, des accompagnements que l'on peut proposer.
Estelle Dautry, vous avez décidé d'écrire ce livre parce que vous aviez beaucoup de questions précisément sur l'infertilité et que vous trouviez assez peu de réponses. Vous êtes journaliste, hein, je le rappelle. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours ?
Oui, alors en quelques mots, nous, avec mon conjoint qui est aussi journaliste, donc on a décidé d'avoir un enfant. Jusque-là, tout se passe bien. Au bout de quelques mois, je suis tombée enceinte, j'ai fait une première fausse couche. Là, évidemment, la situation se complique, on commence à se poser des questions, à se demander est-ce que ça va marcher un jour, comment, pourquoi. Un an plus tard, il y a eu une deuxième grossesse qui, en fait, était une grossesse extra-utérine. Donc là, on commence vraiment à se poser de plus en plus de questions. Et on se retrouve dans un parcours en PMA, c'est-à-dire qu'on prend rendez-vous dans un hôpital public, parisien en l'occurrence, en leur disant voilà, où on en est aujourd'hui, on a fait tel examen, qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe. Et là, bon, alors évidemment il y a le Covid qui complique la situation parce que c'était il y a quelques années, mais on se retrouve dans un parcours qui est très compliqué, où on nous explique à la fois des choses, mais pas tout, ou alors on comprend pas tout parce qu'on n'a pas tous les codes, et où on sort avec beaucoup de questions, à la fois scientifiques, sur mais en fait comment ça marche, qu'est-ce qui marche, parce que tout le monde sait comment on fait un enfant dans les grandes largeurs, mais en réalité, comment ça se passe réellement, une fécondation in vitro, on ne savait pas vraiment. Et qu'est-ce qui fait que ça peut marcher ou pas? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que ça fonctionne mieux? Évidemment, tous les gens vous donnent des tas de conseils, dire, bah, écoutez, fais de l'acupuncture, va voir telle personne, elle est formidable, mets-toi au yoga, fais ci, fais ça, relaxe-toi, arrête de manger ci, mange du jus d'ananas, tu vas voir, c'est extraordinaire, ça va aider l'ovulation. Bon. On se retrouve dans tout ça. Et là, on s'est dit, en fait, il y a quelque chose, il y a trop de questions sans réponse. Nous, encore, on est parisiens, on est journalistes, on a accès à tout un tas de réponses et on peut poser des questions à des spécialistes. Mais vous êtes en zone rurale, vous êtes à 40 km de Dijon, votre médecin, vous prenez, il y a une heure de route pour y aller, vous avez un rendez-vous au bout de 6 mois, il ne répond pas forcément aux questions, vous n'avez pas forcément les codes non plus de l'hôpital ou de la médecine en général. Là, je pense que vous êtes très perdu. Vous ne savez pas quoi faire, comment agir. Et c'est pour ça qu'on a fait le livre aussi, en se disant, en fait, toutes ces questions que nous, on se pose, d'autres doivent se les poser. Et on veut trouver les réponses et pouvoir faire qu'ils se sentent un peu moins seuls, comme nous, on a pu se sentir à un moment donné.
Et ce que vous racontez aussi dans votre livre, c'est que vous-même, vous aviez déjà été enceinte auparavant et que votre compagnon est lui-même père d'un enfant.
Oui, oui, tout à fait, oui, oui. C'est pas parce que, à un moment donné, vous avez eu un enfant ou qu'il y a eu une première grossesse que tout va marcher comme vous voudrez le jour où vous déciderez d'avoir un enfant.
Professeur Nelly Achour-Schnevas, on vient d'expliquer que c'était assez peu documenté finalement, qu'il y avait assez peu de documentation disponible autour de cette question de l'infertilité. Vous le reconnaissez ?
Alors, je pense que c'est vrai. En fait, il faut savoir chercher et il n'y a pas toujours, on donne pas toujours les clés au couple pour pouvoir chercher les informations. Nous, on essaye au maximum de la donner, mais je suis tout à fait d'accord et je comprends tout à fait la critique. Tout va trop vite. On n'a pas forcément le temps de tout expliquer. Et sur le recueil de consentement, je souscris complètement à ce que vous avez écrit dans le livre. C'est devenu un formulaire qu'on donne en plus à signer sans vraiment pouvoir expliquer.
Alors, il faut peut-être expliquer ce que c'est justement le recueil de consentement.
Alors, lorsqu'on fait une PMA, c'est une activité qui est très réglementée avec le consentement pour pouvoir effectuer tous ces actes et donner les soins possibles. Et finalement, ce consentement, il est accompagné d'une information, mais qui est longue. Et finalement, cette information, nous-mêmes en consultation, on n'a pas toujours le temps de la donner. Parce que il y a pas assez de temps où il y a trop de patients à voir en consultation et ce consentement finalement qui est une bonne chose puisqu'il s'accompagne d'une information, c'est devenu un formulaire qu'on donne au couple qui à mon avis ne lit pas, ou alors s'il le lit de toute façon ça va suggérer tellement de questions que finalement je pense que les couples signent sans même vraiment le lire. Et ça, c'est regrettable. Ce qui est regrettable, c'est qu'on n'ait pas plus de temps à donner aux patients. Mais on fait de notre mieux pourtant, vraiment. Mais l'hôpital, c'est l'hôpital.
Alors, je voudrais vous faire écouter un petit florilège de toutes les idées reçues qu'on peut avoir dès qu'on pose la question de l'infertilité. C'est un podcast d'Élodie Font qui s'appelle « Il était une fois la PMA ».
Et vous avez pensé à l'adoption ?
Bah alors, qu'est-ce que t'attends ? T'as toujours pas fait d'enfant ?
Ne te focalise pas là-dessus, ne stresse pas.
Ah bah c'est dans ta tête, t'y penses trop.
Tu travailles trop, t'es trop stressée.
Ton mari coche clair.
Tu me prêtes une femme et puis un coup et puis c'est bon. Hein.
Est-ce qu'on t'a déjà dit qu'il fallait partir en vacances ? Tu sais, moi j'ai la cousine de ma boulangère qui est partie en vacances et bah elle est tombée enceinte.
Bon, voyons.
Voilà, extrait de l'épisode 1 du podcast « Il était une fois la PMA » d'Élodie Font, diffusé sur le site Chic Magazine, c'était en 2018. Je vous ai vu sourire, Estelle Dautry.
Ah oui, je souscris tout à fait à ce que dit Élodie Font, en tout cas ce qu'elle a recueilli. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a recueilli près de 500 témoignages pour avoir d'autres histoires que la nôtre. Et clairement, on retrouve tout ça. Tout le monde a entendu des phrases pareilles, tout le monde a entendu « là là là, mais t'y penses trop, tu fais ci, tu fais ça ». Non, en fait, il n'y a pas d'infertilité dans la tête, c'est pas comme ça que ça marche. Et au contraire, il faut être prêt à écouter ce que les gens vous disent, que ce soit votre ami, votre frère, votre cousin, votre collègue qui vous dit « en fait, ça marche pas et je suis un peu malheureux », ça sert à rien de lui dire « arrête d'y penser », vraiment, ça va pas l'aider.
Ce que vous racontez dans le livre, c'est à quel point, quand vous avez commencé à poser la question autour de vous, vous avez eu des réponses type « Ah, mais vous aussi, vous êtes dans la même galère ?»
Mais oui, oui. En fait, ce qui est terrible, c'est que vraiment, il y a un tabou autour de ça. C'est-à-dire que vous n'en parlez pas tant que vous ne savez pas que vous parlez à des gens qui sont également concernés. Personne ne vous dit. Du coup, quand vous commencez à galérer, vous vous sentez vraiment seul parce que vous avez l'impression que ça n'arrive qu'à vous sur Terre. Vraiment, il y a personne. Vous connaissez personne au travail, personne chez vos amis, personne dans votre famille. Et quand vous commencez à le dire, vraiment, la parole se libère. Mais c'est terrible. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, c'est un flot de voisins, amis d'amis. Amis, cousins, collègues, tout le monde vous dit, soit éventuellement l'enfant que j'ai eu il y a 10 ans, en fait ça a pris du temps, je ne vous l'ai pas dit, soit là on essaye, ça ne marche pas, enfin voilà, ou voire même je me suis séparée de mon conjoint parce que après des années ça ne marchait toujours pas et on était usé, on n'en pouvait plus. Mais ça on ne vous le dit jamais.
Ben on vous le dit, on vous l'a dit à vous en
oui,
tout cas.
Enfin voilà, on commence à vous le dire quand vous commencez à en parler, à demander des infos, à gratter, à être vous ouvert sur la question.
Et pourtant, René Friedman, alors vous nous avez expliqué en début d'émission qu'il y a peut-être qu'un couple sur six, c'était un chiffre à prendre avec des pincettes. En tout cas, on dit qu'un couple sur six en France est concerné. Et puis surtout, une étude américaine de l'épidémiologiste Shana Aswan nous a expliqué récemment que bientôt, d'ici 2045, donc vraiment bientôt, un couple, la majorité des couples, un couple sur deux, devrait avoir recours à la PMA pour avoir un enfant.
Non, mais je pense qu'il faut regarder les choses un peu plus sereinement. Je veux dire par là que, vous savez, il y a des pays dans le monde aujourd'hui, dès qu'une jeune fille de 19 ans n'est pas enceinte, elle passe en PMA. Tout le Moyen-Orient est truffé comme ça d'indications tout à fait discutables. Donc je veux dire, si on force, qu'on dit au bout de quelques mois d'attente qu'il faut passer en PMA, ça va devenir effectivement une habitude et ce genre de livre va y participer. Non, je pense que les PMA, d'abord il y a différents types de PMA. Ensuite, il y a ce qui me semble plus important encore, c'est justement de comprendre, d'abord de faire une analyse de chaque cas, parce que chaque cas est particulier. Il peut y avoir des causes qui retardent, des causes qui empêchent, mais il faut surtout, je dirais, s'adresser à l'ensemble du mode de vie. Vous voyez, il n'y a pas qu'une réponse super technique. Je veux dire par là que même si on a besoin effectivement d'une PMA, il faut penser au mode de vie, au stress, à l'alimentation, au sport, au tabac. Par exemple, la prévention n'est pas assez mise à l'ordre du jour. Et après, on s'étonne effectivement qu'on va buter. Si, par exemple, le tabac ou l'âge avance, il est évident qu'on va avoir une infertilité. Donc, le recours à la PMA, c'est lié aussi à son propre façon ou timing d'accepter de devenir parent. Bon, alors plus on avance dans l'âge et plus on accumule les facteurs environnementaux qui sont aujourd'hui tout à fait intéressants à mettre dans du genre. D'ailleurs, je rappelle que la dernière loi de bioéthique qui date du mois d'août dernier, dans son article 4, insiste sur l'accompagnement d'une part, donc le besoin de renseignement que l'on vient d'entendre, mais aussi sur les facteurs environnementaux qui peuvent être responsables d'une infertilité. Donc c'est une approche un peu différente et qu'il faut avoir, je crois, beaucoup plus humaniste et complète et holistique, on va dire, du couple qui, à un moment donné, peut se poser une question, mais c'est pas parce qu'on se pose une question, parce qu'on a une certaine attente, cela est tout à fait la catastrophe et qu'il faut tout de suite appuyer sur le bouton technique. Vous savez, un couple en bonne santé, jeune, qui désire faire un enfant, il a 20 à 25% de chances d'obtenir un enfant 9 mois plus tard. 20 à 25%, quand il n'y a absolument aucun problème. Donc il faut prendre en compte un peu les lois de la nature, la réalité, et apporter des réponses qui soient équilibrées dans l'offre de soins, de compréhension que l'on peut faire.
Nelly Achour-Schneves.
Oui, je suis d'accord avec ce qui est dit. Ceci étant, on ne peut pas non plus être dans le déni. Il y a une vraie altération de la qualité du sperme qu'on a mis en évidence depuis maintenant de nombreuses années et qui ne fait que s'empirer. Alors, je ne veux pas être alarmiste, mais effectivement, probablement que les perturbateurs endocriniens sont responsables, mais aussi le mode de vie, l'exposition aux pesticides qui font que il y a quand même quelque chose qui se passe qui est en lien avec l'environnement et qui est toxique. Et bien sûr, le tabac, l'alcool, le cannabis, où là c'est parfaitement prouvé, et y compris le surpoids ou l'obésité. Pour rebondir sur ce que disait Estelle quand même sur le manque d'informations, justement le plan de lutte contre l'infertilité auquel où j'ai participé, qui a été managé, enfin piloté par le professeur Samir Amama, met beaucoup en avant l'information. Effectivement, les femmes ne sont pas suffisamment informées, les hommes non plus d'ailleurs. Et je pense qu'il y a un gros travail à faire, y compris avec une information depuis le collège, au même titre qu'on informe les jeunes filles ou les jeunes hommes sur les maladies sexuellement transmissibles ou sur
la contraception
ou l'avortement. Et pour revenir sur le manque d'informations ou la difficulté à parler, je voudrais juste dire quelque chose, peut-être un peu pas de rigolo, mais qui nous émeut beaucoup. C'est les amitiés qui se créent dans les salles d'attente de nos centres, où on voit des couples qui deviennent amis, mais pour la vie, quoi. Et ça, je trouve que c'est très émouvant.
Vos centres sont les SECOS, je le redis pour les auditeurs qui viendraient en cours de route, c'est-à-dire les centres où on procède au don de soit de sperme, soit d'ovocytes.
Oui. Oui, mais même dans les centres de PMA tout court, enfin, où on fait les fécondations in vitro, vous savez, les deux sont quand même un peu mélangés. Et vraiment, il y a un soutien entre ces couples dans les salles d'attente, on le sent beaucoup.
Mais je voudrais bien votre point de vue sur cette étude de cette épidémiologiste américaine, Shana Swan, qui disait que d'ici 2045, parce que c'est important, vraisemblablement, en tout cas pour elle, si on prend en compte la baisse de la fertilité, notamment chez l'homme, un couple sur deux aurait recours à la PMA pour avoir un enfant.
Écoutez, alors qu'il est, en tout cas au jour d'aujourd'hui, il y a 3,6% des enfants, soit un enfant sur 28 maintenant, qui naît après PMA. Donc le chiffre augmente d'année en année, et c'est une augmentation qui est forte. Je dirais que la PMA participe à l'effort national, ou je ne sais pas comment dire, de la natalité dans notre pays, donc c'est quand même vraiment quelque chose d'important. Cette projection sur 20 ans, je pense qu'elle est parue dans un journal scientifique qui doit tenir compte de l'état actuel des choses et du fait aussi que si on ne change rien, eh bien peut-être qu'on va arriver à cette situation. Moi, je suis pas très étonnée du chiffre qui a avancé. Hein. Moi, ça m'a pas fait sauter au plafond. Hein. Il faut quand même qu'à un moment, on prenne les choses en main et qu'on prenne conscience que la fertilité est en jeu dans notre pays ou dans le monde.
Grand bien vous fasse. Thomas Chauvineau sur France Inter.
Trois invités ce matin pour évoquer l'infertilité, la journaliste Estelle Dautry, le professeur, la professeure, on peut dire professeur, hein, ou professeuse, vous préférez qu'on vous appelle comment ?
La professeure.
La professeure, Nelly Achour-Schneves, qui est responsable du SECOS, le Centre de conservation du sperme et des gamètes, et aussi le professeur René Friedman, bien connu des auditeurs pour avoir participé il y a 40 ans à la naissance de ce qu'on a appelé à l'époque le premier bébé éprouvette. Vous l'appelleriez encore bébé éprouvette ? C'est vrai que ça fait curieux 40 ans plus tard ce nom, René Friedman.
Non, je l'appellerais par leur son prénom. Mais je voudrais revenir à ce que vous aviez dit tout à l'heure sur l'accompagnement et sur la prévention, sur le risque d'infertilité. Il est évident que si on développe correctement la prévention, on va juguler un peu ce recours à cette technique. Et que donc c'est extrêmement important, c'est-à-dire aussi bien au niveau de l'éducation scolaire que dans différentes situations, il y a besoin d'éducation sur les problèmes de fertilité et d'infertilité. D'ailleurs, on va ensemble. Pour l'accompagnement, il est évident que la dernière loi propose un accompagnement mais ne donne pas les moyens. Je veux dire par là que ce serait important de faire une audite dans chaque centre, de voir effectivement quelle est la disponibilité des gens qui aujourd'hui sont sous une activité intense et n'ont pas le temps du dialogue, ou pas suffisamment de temps du dialogue malgré leur volonté, et donc de mettre peut-être d'agrandir des équipes pour qu'il y ait un relationnel qui soit établi. Toutes les patientes, et je pense pas que ce soit notre journaliste qui nous dise autre chose, toutes les patientes qui ont participé à des PMA se sentent dans une grande solitude et un manque de lien pour pouvoir suivre et avoir des informations au fil de l'eau. Enfin, il y a une chose qui me semble importante, c'est de compter justement sur les associations de patients. Il y a un certain nombre d'associations qui existent et qui renforcent la possibilité d'information, surtout si c'est en lien avec les équipes médicales. Il n'y a aucune opposition, il y a au contraire des complémentarités. Tous ces points-là me semblent importants pour essayer de remonter une forme de lien humaniste entre les patients et les médecins.
Mmh. On a évoqué, Nelly Achour-Schneves, la pratique du sport, l'arrêt du tabac. Quelles sont les causes de cette quelles sont les causes au pluriel hein, donc de cette infertilité?
Alors là c'est alors pour le coup c'est des études vraiment qui ont démontré que le tabac, l'alcool, le cannabis avaient un vrai effet sur le testicule ou l'ovaire et entraînaient vraiment une dégénérescence des cellules reproductrices, pour faire un petit peu grand public.
Oui, il faut bien le rappeler, ça concerne aussi bien les hommes que les femmes.
Alors, à l'identique, vraiment à l'identique. Et du coup, il faut informer les jeunes, des 20 ans, des 18 ans, que finalement, ils s'abîment un potentiel éventuellement de reproduction. Il y en a qui sont sensibles, il y en a d'autres qui le seront moins, mais il faut les informer. Et parce que quand les couples arrivent en consultation, on leur demande immédiatement d'arrêter le tabac, de maigrir, de faire du sport, mais c'est trop, en fait, c'est beaucoup trop pour eux. C'est vraiment une punition. Il faut se mettre en amont de tout ça.
Oui, puis j'imagine aussi la culpabilité qui doit s'accompagner de tout cela, Estelle Dautry.
Oui, on fait beaucoup culpabiliser les femmes, surtout, en leur disant, vous avez attendu trop longtemps.
Oui.
Regardez, vous avez 35 ans, vous avez 36 ans, mais pourquoi vous vous réveillez aujourd'hui? Mais on se réveille aujourd'hui.
C'est ce que vous avez vécu?
Alors non, parce que j'étais un peu plus jeune. Mais malgré tout, c'est ce qu'on nous a beaucoup dit dans les témoignages. C'est-à-dire que c'est des femmes qui arrivent. Bon, il a fallu le temps de éventuellement construire sa carrière, éventuellement trouver le bon partenaire, que le partenaire ait envie de faire un enfant au même moment. Et là, de se dire, écoutez, allons-y. Ensuite, il y a plusieurs mois, plusieurs années d'essai sans consulter. Et à partir du moment où on consulte, là, voilà, il y a beaucoup sur les femmes. Mais vous avez fait ci, vous avez fait ça. Oui, mais en même temps, c'est la vie aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne veut pas, nous, culpabiliser les femmes en leur disant écoutez, fallait le faire à 25 ans, votre enfant, là, qu'est-ce que vous faites? Non, la réalité, c'est qu'on ne peut pas tous faire un enfant à 25 ans. Ce n'est pas toujours le bon moment, on n'a pas toujours l'envie. Et on peut se réveiller à 38 ans en ayant très envie de faire un enfant et en ayant enfin les moyens, l'amour, tout ce qu'il faut pour donner à cet enfant.
Sur franceinter.fr, ces messages qui nous arrivent. Charlotte nous dit « Je n'ai jamais pensé avec urgence à avoir un enfant. J'ai arrêté ma contraception il y a 10 ans et je viens d'avoir un enfant. J'ai laissé faire la vie. Je me disais que j'aurais ou non un enfant et que ce serait comme ça. » Et puis sur la page Facebook de l'émission, Sylvie nous dit « Pouvez-vous dire à vos auditeurs combien il est important de donner son sperme? Mon fils est né ainsi. Il a 30 ans. Il est magnifique et bien dans sa peau. » Ça vous fait sourire, Nelly Achour-Schneves, vous qui, justement, dirigez les Sécos, les centres où on donne le sperme.
Alors,
ça vous touche, ce genre de message?
Ah oui, énormément. Énormément et sincèrement, il y a un gros besoin de donneurs de sperme actuellement, vu la modification de la loi et cette ouverture pour l'accès au don de sperme pour les femmes, pour toutes les femmes. C'est une loi qui est faite pour les femmes et que je soutiens fermement. Mais il va falloir que les hommes nous aident.
En même temps, on peut les comprendre aussi, ces réticences. Il y a la question de l'anonymat qui est fort importante. Et puis il y a cette idée qu'on se fait aussi de ces centres un peu étranges où il faut éjaculer dans une éprouvette.
Oui, mais je dirais que c'est un don qui va permettre à des couples de femmes, à des femmes non mariées et à des couples hommes-femmes, de réaliser leur projet d'enfant, leur désir d'enfant. Et c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un autre couple. Alors, il n'y a pas une levée de l'anonymat parce que le couple en question ne connaît pas le donneur. Hein, il faut bien être clair. On a donné aux enfants issus du don la possibilité d'avoir accès aux origines à leurs 18 ans. Donc, oui, il y a cet aspect où maintenant les donneurs vont se dire peut-être que je vais être contacté par un ou deux, ou je sais pas, enfin, le nombre d'enfants est limité à 10 à 18 ans pour avoir un contact. Mais finalement, ces enfants, ils demandent juste, je pense pas que ça ira très très loin, ils veulent juste savoir qui c'est, peut-être le rencontrer une fois, mais après, leur mère, c'est leur mère, leur père, c'est leur père. Et je pense que sincèrement, il n'y a aucune ambiguïté entre le donneur de sperme et celui qui est le père ou le papa. Quoi.
C'était pas un frein pour vous ? Cette levée de l'anonymat qu'on n'appelle pas vraiment levée de l'anonymat.
J'ai pas l'impression que ça le soit, mais on verra. On verra. Pour le moment, il y a quand même beaucoup de donneurs qui... Là, il y a quand même quelque chose qui se passe avec même... Il y a certains sécos qui ont même du mal à... Il y a des sécos qui se plaignent, hein, qui disent que là, ça ne va pas le faire et qu'il n'y a pas assez de donneurs. Et pourtant, il y en a d'autres qui disent on est un peu submergé par la demande. Donc, il va falloir qu'au niveau national, on se répartisse peut-être les demandes, enfin les dons. Voilà. Mais on a besoin des hommes, ouais. Pour aider les femmes. Il faut se battre pour les femmes.
France Inter. Grand bien vous fasse. Thomas Chauvineau.
Et trois invités pour évoquer l'infertilité. La journaliste Estelle Dautry, la professeure Nelly Achour-Schneves et le professeur René Friedman. On le disait en début d'émission, René Friedman, ça fait donc 40 ans que le premier Camandine est né, premier bébé, comme on disait à l'époque, éprouvette. Je lisais récemment une interview de vous où vous disiez que finalement la médecine de la reproduction ne s'était développée que très récemment, il y a 50 ans à peine. On ne connaissait pas encore vraiment le mécanisme de l'ovule.
Oui, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de mythologies, beaucoup de croyances. Vous savez, à un moment donné, on pensait que toutes les femmes avaient tous les enfants du monde depuis Ève dans leurs ovaires. Ensuite, on pensait que dans les spermatozoïdes, c'était déjà des petits bonhommes qui étaient préformés. On pensait beaucoup à la préformation au 19e siècle, avant de comprendre que c'est un mélange et puis les données génétiques qui sont fondamentales. Si vous pensez qu'aujourd'hui on a tout compris, vous vous trompez, hein, comme nous. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'il y a, si vous voulez, 60% d'embryons que l'on va transférer au cours d'une fécondation in vitro, qui ne vont jamais s'implanter. Quel est le dialogue entre les embryons et l'utérus qui font que certains s'implantent, d'autres ne s'implantent pas. Quels sont les facteurs environnementaux, on y revient encore, qui favorisent ou qui défavorisent le développement à bon escient d'un embryon qui devient fœtus et d'un bébé sans aucun problème. Donc c'est une spécialité qui est passionnante. Elle touche à la vie, elle touche à la psychologie, elle touche à l'environnement, elle touche aux phénomènes intrinsèques qui aboutissent à la fécondation et à l'implantation. Donc il y a depuis 40 ans, on n'a pas le temps de reprendre les différents progrès qu'il y a eu. On a résolu des problèmes masculins, certains en tous les cas, des problèmes génétiques, certains en tous les cas. Et aujourd'hui, on a mis des applications sociales qui permettent à certaines parties de la population, femmes seules, effectivement, aux jeunes filles de conserver leurs ovocytes pour plus tard en cas de besoin. Donc il y a des évolutions sociétales, mais sur le plan du fond, et il y a encore énormément d'inconnus, car encore une fois, je le répète, un homme et une femme qui veulent un enfant n'auront que 25% des cas l'enfant voulu 9 mois plus tard. Et les résultats de la fécondation in vitro ne sont pas beaucoup supérieurs à ce chiffre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'échecs. Et on pourrait avancer pour la compréhension de ces échecs, et c'est un enjeu qui, dans les années qui viennent, on a besoin de jeunes chercheurs, de jeunes têtes disciplinées et audacieuses pour comprendre encore tout un tas de phénomènes.
Nelly Achour-Schneves, c'était fin février, un rapport a été remis au ministre de la Santé, un rapport sur les causes de l'infertilité dans notre pays, et c'était une première en France. Ça veut dire quand même que ça prend du temps.
Oui. Pour sensibiliser, vous voulez dire ?
Oui. Première en France, enfin, ça fait quand même longtemps qu'on se pose la question, et pourtant il a fallu attendre 2022 pour avoir un rapport sur la question.
Oui, ça on peut remercier le Olivier Véran qui a commandé ce rapport. On espère qu'il fera son chemin et qu'on sera entendu. voilà, qui reste pas dans un tiroir de un bureau ministériel.
Alors là, il y a des élections, donc évidemment, on peut pas préjuger de ce qui va se passer. Sur franceinter.fr, ces messages qui continuent de nous arriver. Raquel qui nous dit « Je suis en parcours PMA depuis 3 ans et demi. J'ai fini par accepter l'attente. Je fais confiance à la science et à la vie. Je sais que ça finira par fonctionner. Néanmoins, ce qui nous fait le plus souffrir, c'est de devoir honorer autant de rendez-vous aussi loin de la maison. Mon hôpital est à 45 minutes de la maison. C'est vraiment très dur de concilier tous ces rendez-vous avec la vie professionnelle. Et ce que vous dites dans votre livre également, Estelle Dautry, c'est que c'est encore plus difficile pour les femmes.
Alors évidemment, parce que c'est les femmes qui sont obligées d'aller à tous les rendez-vous, parce que c'est les femmes qui font les traitements, qui font les injections, qui font les échographies de contrôle, qui font les ponctions, qui font tout. Globalement, l'homme, en fait, bon, il a toute sa place là-dedans, mais il ne peut venir qu'une seule fois le jour du recueil de sperme, sinon, voilà, et faire quelques examens. Sinon, lui, en tout cas, sa vie professionnelle n'est pas impactée par la PMA. Alors que les femmes se retrouvent, encore une fois, comme dans le cas de la grossesse, confrontées à allier vie personnelle et travail. Parfois, il y a des rendez-vous toutes les 48 heures à l'hôpital pour faire des prises de sang, faire une échographie. Et ça, si vous avez un travail qui est à 45 minutes de l'hôpital, que vous avez des horaires fixes, que votre chef n'est pas au courant, parce que c'est quand même compliqué, même si effectivement la Sécurité sociale prévoit que vous puissiez avoir des rendez-vous de PMA et libérer du temps sur votre travail, ça implique de le dire à vos supérieurs. Vous n'avez pas forcément envie de dire de raconter votre vie au travail. Et là, soit vous prenez des jours d'arrêt maladie, si éventuellement on vous les prescrit, soit vous prenez des jours de congé, soit vous arrivez en retard. Et là, il y a quelque chose qui s'enchaîne, c'est-à-dire que ça peut durer des mois, des années. Vous progressez pas dans votre carrière parce qu'on trouve que vous êtes pas très fiable, parce que vous avez plein de rendez-vous, vous êtes souvent absente, vous êtes je ne sais quoi, et vous êtes impactée encore plus, et donc vous arrivez même pas à vous investir pleinement dans votre travail, votre projet d'enfant n'aboutit pas, enfin c'est un espèce de cercle infernal qui repose encore une fois sur les femmes.
Alors signe que quand même on commence à sortir du tabou, il y a une femme très connue qui a contribué à lever une partie du voile autour de cette question de l'infertilité, c'est l'ancienne First Lady Michelle Obama, je voudrais qu'on l'écoute.
Je me suis sentie perdue et seule et presque défaillir parce que j'ignorais tout sur les fausses couches. On reste avec notre propre souffrance en se disant d'une certaine manière qu'on est cassé. L'horloge biologique existe parce que la production d'ovules est limitée. J'ai réalisé cela à 34 ans et à 35, nous avons eu recours à une FIV.
Voilà, extrait d'une interview diffusée en 2018, c'était sur la chaîne ABC. C'est important que des personnalités publiques, l'envergure de Michelle Obama, prennent la question prennent la parole sur cette question.
Oui, très. Très, parce que réellement, on se sent moins seul. Et quand Michelle Obama a parlé, il y a un effet de soulagement et de se dire « Ah, ça va, je suis comme Michelle Obama, finalement ». Et Michelle Obama a très bien réussi sa vie et elle a fini par avoir 2 filles. Donc il y a vraiment un soulagement de se dire on n'est pas seul au monde. Des gens connus qu'on admire éventuellement, mais c'est Michelle Obama, mais ça peut être des actrices, des chanteurs, des chanteuses, n'importe qui, même quelqu'un, un chef cuisinier que vous admirez. Si un jour il dit j'ai eu du mal à avoir des enfants, vous dites ah lui aussi. Et vraiment ça fait du bien et on se sent moins seul, on se sent moins isolé, on est prêt éventuellement à en parler plus à son entourage. Et puis les gens qui ne sont pas concernés comprennent mieux, en fait. Parce que dire un couple sur 6 est concerné, bon, c'est bien, c'est des chiffres, mais ça vous dit pas réellement qu'il y en a dans votre entourage. Donc, voilà, moi, j'aime beaucoup Michelle Obama et elle en a parlé alors que moi-même, j'étais en difficulté et ça m'a vraiment aidée.
Ça a résonné à ce moment-là pour vous.
Ça a résonné à ce moment-là, voilà, mais ça aurait été quelqu'un d'autre, ça marche aussi, c'est pas la seule à en avoir parlé. Et c'est un très bon exemple parce qu'au contraire, il y a aussi beaucoup d'actrices qui sont mises en avant, d'actrices américaines mais françaises aussi, qui ont des enfants à 45 ans, à 48 ans, à 50 ans, qui sont en une de magazines. Et on vous dit jamais qu'en fait, elles ont quand même eu recours à la médecine, que cet enfant, il n'est pas arrivé miraculeusement avec... elle est partie en vacances avec son mari, elle a oublié sa pilule et à 48 ans, elle est tombée enceinte. Non, en fait, ça s'est pas passé comme ça. Mais souvent, elles ne racontent pas le parcours d'avant. Elles disent pas, en fait, oui, c'est un don d'ovocyte. J'ai été, je ne sais où, en République tchèque, en Espagne. Voilà, c'est pas venu naturellement.
Mais puisqu'on lève un peu le voile sur le tabou, est-ce que vous pouvez raconter ce que c'est concrètement, justement, ce parcours PMA ? Parce qu'il y a ces 3 initiales, mais qui ne veulent pas dire grand-chose dans la tête de celles et ceux qui n'ont pas connu ce parcours.
Alors, concrètement, c'est déjà beaucoup d'examens. c'est déjà des mois seuls où on essaye chez soi, globalement, comme tout le monde, et où ça ne fonctionne pas. Ensuite, vous vous retrouvez dans un cabinet médical, souvent un gynécologue, qui vous prescrit à vous et à l'homme, mais des fois on oublie un peu l'homme là-dedans, des examens, des prises de sang, des échographies pour voir comment fonctionne votre corps. Est-ce qu'il y a une bonne ovulation? Est-ce qu'il y a des bons spermatozoïdes ou pas? Ça, c'est la première étape. Et ensuite, en fonction de ce qu'ont donné ces résultats, on vous propose de faire une première stimulation ovarienne, c'est-à-dire que vous injectez des hormones tous les jours à heure fixe, pendant une dizaine de jours, pour avoir le plus d'ovocytes matures possible à un moment donné.
Et ça se passe chez vous, ça se passe dans un cabinet médical, donc c'est vous-même qui...
C'est vous-même, c'est-à-dire qu'on vous dit, vous arrivez à le faire. Vous piquez vous-même, sauf que, éventuellement, la plupart des gens ne l'ont jamais fait. Donc vous vous retrouvez à la pharmacie, on vous donne des médicaments en vous disant, ah ben voilà, faut le garder au frigo et faut l'injecter à heure fixe. Vous vous retrouvez avec une seringue, vous n'avez jamais vu ça de votre vie, il y a déjà un moment de flou. Vous dites, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Donc faut arriver à faire les injections soi-même. Là, pareil, vous trouvez des ressources sur Internet, des tas de femmes qui ont dit « Ah bah moi, je commence par pincer, je commence par faire ci, je commence par faire ça. » Il y a des petites techniques pour pas avoir trop de bleu, parce que ça fait mal cette affaire. Et donc vous faites ça tous les jours. Ensuite, vous avez un contrôle échographique. Alors voilà, tout ça, c'est un peu invasif pour le corps de la femme qui vous dit « Ah bah ça a bien fonctionné, ça a pas fonctionné. Revenez, retentez le mois prochain. » Alors vous retentez le mois prochain. Ça marche rarement du premier coup quand même. Hein. Donc vous faites ça à chaque fois en vous disant, en ayant l'espoir que ça va fonctionner, parce que c'est quand même un peu dur pour le corps. Et puis les hormones vous rendent un peu zinzin malgré tout. Hein.
C'est-à-dire, ça y est.
Alors, il y a tous les effets possibles et ça dépend des femmes, mais éventuellement vous n'arrivez pas à dormir ou alors vous dormez tout le temps. Vous pouvez gonfler, vous pouvez avoir de l'acné, vous pouvez vous mettre à, je ne sais pas, à perdre vos cheveux. Perdre vos cheveux, pas du tout comme une chimio, mais je veux dire. Voilà, il y a des changements. C'est un boost hormonal. Donc, éventuellement, voilà, vous êtes à peu près habitué à avoir vos règles tous les mois, avoir un peu des changements. Là, c'est multiplié par 10, par 100. Donc, vous n'êtes pas tout à fait dans votre état normal. Et après, vous avez des contrôles, éventuellement, vous faites une première insémination, c'est-à-dire que c'est le médecin qui, après le recueil de sperme, va procéder lui-même à insérer les spermatozoïdes dans l'utérus directement. Éventuellement, ça ne fonctionne pas parce que malgré tout, les inséminations, ça ne fonctionne que dans 10% des cas. Donc, vous en faites plusieurs parce que c'est ce qui est prévu par la Sécurité sociale dans le parcours. Là, ça n'a toujours pas fonctionné. Bon, là, ça fait déjà des mois que vous essayez, voire des années. Vous vous retrouvez à l'hôpital, on vous propose une fécondation in vitro. Donc là, vous passez à l'étape d'au-dessus. Vous continuez les hormones, les injections, mais là, c'est en étape plus. Vous faites toutes ces injections, il y a un recueil des ovocytes, c'est une ponction qui se fait sous anesthésie, soit sous anesthésie locale, soit sous anesthésie générale. Et ensuite, c'est un médecin, un biologiste qui va faire directement l'insémination. Il y a les ovocytes d'un côté, le recueil des spermatozoïdes de l'autre, et on place l'embryon.
Est-ce que on voit ces techniques très très invasives, très difficiles à vivre? Est-ce que c'est en train d'évoluer, professeur?
J'aimerais bien, mais malheureusement, pour le moment, les traitements sont ce qu'ils sont. Effectivement, il faut contrôler, comme l'explique Estelle.
Ça peut pas être plus souple.
Je le vois pas. Enfin, je vois pas comment. Je trouve que ce qui est très bien raconté dans le livre, c'est ces rapports sexuels programmés. Pour moi, je trouve ça hyper difficile pour le couple. Je pense que ça doit marcher de temps en temps. Enfin, ça doit sûrement marcher, mais c'est la chose que moi j'aimerais qu'on arrête finalement, parce que j'ai l'impression à la lecture du bouquin que ça abîme beaucoup de dire bon ben voilà, c'est demain à telle heure vous devez avoir un rapport sexuel demain. Voilà. Et si on peut pas, s'il est pas là, ou si elle est pas là,
ou si vous avez pas envie.
Elle explique très bien à quel point c'est mécanique, à quel point le couple se perd, enfin. Et à la limite, je me dis qu'on ferait mieux de passer à une technique directement, plutôt malgré ce que tu expliques, qui est effectivement, c'est difficile pour les femmes. Mais il y a des femmes qui sont soutenues par les hommes. Il y a des hommes qui font les injections, il y a des hommes qui accompagnent et d'autres qui ne peuvent pas.
Sur franceinter.fr, Dominique nous dit « Bonjour, ma fille est née ». ma fille est née, alors que j'avais 25 ans. Et puis après cette naissance, des difficultés pour faire un autre enfant se sont accumulées. Après 4 ans de proposition de FIV, me connaissant psychologiquement, j'ai refusé et nous avons adopté une adorable petite fille. Mes filles, maintenant, sont deux grands bonheurs. Je ne crois pas aux liens du sang, mais à ceux du cœur. Et parfois, il faut aller plus loin dans la réflexion quant à la parentalité. Merci à Monsieur Beaulieu pour son partage. Et en effet, tout à l'heure, Baptiste nous parlait aussi de cette adoption. Ce qu'on découvre aussi dans votre livre, Isabelle Dautry, Génération Infertile, c'est que cette idée de PMA est devenue un business. C'est-à-dire qu'on peut vous vendre à peu près tout et n'importe quoi. Vous racontez qu'il y a des tisanes, du miel, des séances de yoga, par exemple. C'est en dehors aussi du fait de ce qu'on peut aller payer en partant à l'étranger. Mais ce business qui est devenu l'infertilité.
Bien sûr, mais en fait, vous êtes vulnérable. Donc, vous êtes prêt à tout, quelque part. Ce que vous ne feriez pas en temps normal, quand tout va bien, là, vous êtes sensible. C'est-à-dire qu'on vous dit, il y a des promesses. Alors, il y a des médecines douces qui marchent, et avec des professionnels qui sont là en toute bonne foi et qui veulent vous aider. Mais il y en a aussi qui sont là en vous disant, venez, on va faire des rendez-vous 3 fois par semaine, grâce à moi, ça va fonctionner. Et dans 3 mois, dans 6 mois, vous aurez un enfant. Sauf que la consultation, c'est 100 € par semaine, mettons, et vous allez tous les mois, et ça ne fonctionne pas plus qu'autre chose. C'est-à-dire qu'à la fin, peut-être que vous aurez un enfant, mais est-ce que ce sera grâce à ce que vous avez payé, à ce miel de la fertilité que vous avez acheté 100 € et que vous mangez religieusement tous les matins sur votre tartine en vous disant « grâce à ça, ça va fonctionner ». Non. Et en plus, c'est encore plus culpabilisant pour les femmes. C'est-à-dire que vous avez fait tout ce que on vous a dit et ça n'a pas marché. Et là, c'est pire que tout. C'est-à-dire que vraiment, vous avez tout investi, vous avez tout payé, vous avez tout fait comme on vous dit, vous avez maigri, vous avez mangé ci, vous avez mangé ça, et ça n'a pas marché quand même.
Et ça finit par marcher.
Ça finit par marcher, mais pas dans tous les cas. Il faut quand même avoir en tête que la PMA, c'est pas du tout miraculeux, et qu'à la fin, il y a beaucoup de gens qui n'auront pas d'enfants.
Merci à tous les trois d'avoir participé aujourd'hui à Grand Bien Vous Fasse, c'est le mode d'emploi de la vie quotidienne.